Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est livre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Baron, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, c'est Nina Bouraoui qui nous accompagne. Elle publie son nouveau roman Satisfaction. On peut prononcer Satisfaction comme la chanson et on ne se privera pas de l'écouter d'ailleurs. Nous visiterons la bibliothèque de l'écrivain journaliste Gilles Martin Chauffier. Et puis comme chaque semaine, nous rendrons visite à l'un de nos libraires. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. On l'avait quitté avec Otage, l'histoire d'une femme qui lâche tout et qui casse tout pour éventuellement recommencer. Elle revient avec Satisfaction, mais on a envie de dire Satisfaction, on en parlera chez Lattès. Cette fois, on est dans l'Algérie des années 70. Madame Akli est française, mais elle a suivi Brahim en Algérie. Ils ont un fils, Erwan, mais quand on la rencontre, cette Madame Akli, ça ne va pas. On le sait parce qu'on lit ses carnets, des fragments de vie qu'elle note. Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Je me suis trompée de vie, écrit-elle dès le début. Qu'est-ce que ça veut dire, se tromper de vie ?
À en avoir conscience, c'est compliqué.
Oui.
C'est triste parce que Satisfaction est l'histoire non seulement d'une folie, mais d'une résignation. Madame Akli a renoncé à ses projets, à sa liberté. J'ai voulu rendre hommage à ces femmes françaises qui ont rencontré des hommes algériens en France pendant la guerre d'Algérie et qui ne sont pas, elles, rentrées au pays, mais entrées dans un nouveau pays avec leur mari, et là, Alger, avec un idéal politique, reconstruire un pays, et puis un idéal amoureux, tout d'un coup, avoir épousé un étranger, qu'est-ce que ça veut dire, quelle dimension ça donne. Et puis finalement, Madame Akli, vers la fin des années 70, n'aime plus Brahim, n'a plus de désir pour son mari et va s'en inventer d'autres, des désirs assez violents. Et ces carnets sont aussi les fantasmes de ces désirs-là.
Oui, d'ailleurs, on lit les carnets donc, de Madame Akli. Pourquoi cette forme ? Et pourquoi d'abord, pourquoi Madame Akli et pas Michel Akli, qui est son nom ?
Ah, j'aimais bien les carnets de Madame Akli parce que ça laisse supposer qu'on pourrait trouver ces carnets. Que finalement, quelqu'un les a trouvés et les a publiés. Ça peut aussi donner cette dimension. Et puis, j'ai eu du mal, enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, mais c'est-à-dire que moi, j'aime bien écrire à la première personne. Il se trouve que Madame Akli est quand même l'exact opposé de la femme que je suis. Madame Akli est assez torturée. Je ne dis pas que je suis torturée, mais elle est parfois, elle a des espèces de poussées de racisme, de poussées d'homophobie. C'est la part noire, la part du mal qui réside parfois dans chacun d'entre nous. Nous, nous savons la tenir, la serrer, et puis parfois, elle n'existe pas du tout. Mais Madame Akli, c'est un peu les travers, c'est un peu les mauvaises pensées. Parler à la première personne pour faire parler ce personnage qui est quand même très ambigu, qui est aussi cruel, qui va préparer une vengeance terrifiante sur l'un des personnages.
Je ne dis rien du tout.
En fait, il fallait trouver le journal. Pour moi, était étouffant avec les dates. En revanche, les carnets, c'est un livre de confession et c'est un livre d'hypnose aussi. On entre vraiment dans la maladie mentale de Madame Akli. Mais c'est aussi quand même le récit, parce que je pense qu'il y a une folie à être exilé. Je pense que lorsqu'on est un exilé, on devient fou. C'est compliqué d'épouser une terre qui n'est pas la sienne et dont, à l'origine, sa propre terre à soi était ennemie de cette terre-là.
Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une exilée qui n'a pas été chassée. Elle n'a pas quitté son pays par nécessité, mais par amour. Et ça, c'est un profil qu'on observe assez peu, finalement, en littérature. On suit souvent des exilés, mais qui n'ont pas le choix, et c'est dur, et tout, et tout. Là, elle est partie volontairement par amour, et elle pourrait très bien rebrousser chemin si elle voulait.
C'est vrai, mais elle n'a pas le courage. On est à la fin des années 70, c'est une femme qui ne travaille pas. C'est le récit aussi de la domesticité. C'est une femme qui cuisine beaucoup, qui a un petit garçon, qui s'appelle Erwan, qui a 10 ans. Elle est une sorte de passion folle, c'est-à-dire que la passion s'est déplacée de Brahim sur Erwan. Et je crois, pour parler des exilés, il y a en effet deux formes d'exil, mais l'exil de soi est peut-être irréparable. Il est interne, il est justement, lorsqu'on est chassé, on est une sorte de force. Elle s'est exilée d'elle-même, et puis finalement, elle va devenir exilée de son histoire, exilée de son amour, exilée de sa propre identité.
C'est quoi l'Algérie des années 70 ?
Je la connais bien, j'y ai vécu. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que tous mes travaux autofictionnels ont volé en éclats. Je crois que je ne peux plus faire d'autofiction. Mais en revanche, j'ai récupéré les instruments, j'ai récupéré les décors, j'ai récupéré les scènes. Et cette Algérie, je l'ai bien connue, puisque moi j'y ai vécu de 67 à 81. C'était une Algérie faussement calme. Une Algérie évidemment bouillonnante, sublime, de par sa nature, assez virile, mais qui a été traumatisée par cette guerre d'indépendance, qui a été terrifiante des deux côtés, hein, aussi bien pour les Français que pour les Algériens. C'est une Algérie qui est en train de se construire, mais qui n'y arrive pas. Et le point de vue du livre aussi, c'était pourquoi, comment la santé mentale de quelqu'un dépend aussi de la santé mentale d'un pays. C'est un pays qui est en plein trouble, mais ça ne se voit pas. Je crois que nous avons été les spectateurs passifs d'une nouvelle guerre qui se préparait, qui commençait à se tricoter.
En fait,
exactement. Cette Algérie de la fin des années 70 prépare l'Algérie de la décennie noire des années 90.
Bon, là, elle est maintenant avec son fils et Brahim. Le problème, c'est que le désir est parti et elle s'ennuie, parce que c'est aussi ça, hein, vous l'avez dit, c'est la domesticité. Brahim qui est trop doux, dit-elle. Comment peut-on être trop doux? Nous poursuivons l'échec de l'histoire de nos deux pays, rajoute-t-elle.
Oui, parce que je crois que ces mariages-là ont été assez compliqués. Moi, je les ai bien connus, ces Françaises, puisque ma mère en fait partie, mais ma mère n'a rien à voir avec aucun des personnages de ce livre. Mais c'est vrai que déjà, cette communauté française, en général à l'étranger, est souvent un peu serrée d'ennui, de solitude. Alors, ces femmes françaises n'ont pas été acceptées en Algérie, puisque l'Algérie était encore cette sorte de répulsion de la France, puisque une colonisation est aussi une absorption d'une culture par une autre, d'un peuple par un autre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des avantages, ce n'est pas vrai. Il faut aussi être très honnête et très sincère. Et je sais qu'il y a des colonisations réussies qui se sont opérées en Algérie. Il y avait des catholiques, des musulmans, des juifs qui s'aimaient beaucoup. Et ça a été un déchirement quand les Français ont pris ce bateau et ont quitté leur terre, parce qu'ils se sentaient vraiment plus algériens que français. Mais ces Françaises qui arrivent ont les vêtements des Français. Madame Akli, elle aime l'Algérie, elle a envie de se faire accepter, mais n'est pas acceptée parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop jeune, et que les gens de la rue, les gens qui peuplent ce pays, les gens qui sont le cœur de ce pays, sont déçus. Ils ont donné leur sang pour l'indépendance et peut-être qu'ils n'ont pas encore récolté la réelle victoire.
Vous parliez d'hypnose pour votre livre, et c'est vrai, c'était le mot que je cherchais en le lisant. Il y a quelque chose d'hypnotisant. Vous aussi, vous avez quelque chose d'hypnotisant. À chaque fois que je vous reçois, j'ai cette sensation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça.
Mais est-ce que ce n'est pas le côté... est-ce que ce n'est pas ma part orientale et, vous savez, je crois que je vous l'avais déjà dit, Bouraoui, Raoui, c'est l'écrivain en arabe, donc c'est celui qui raconte, voilà. C'est le conteur. Et je crois que le pays où je me sens le mieux, c'est le pays des mots, mais qu'il soit écrit ou qu'il soit dit... Il y a quelque chose dans la narration, dans la légende, dans les contes. Et c'est vrai que ce livre est une lente et longue hypnose et un long venin qui se dépose tout doucement sur le lecteur.
Du coup, c'est un peu idiot. On a l'air un peu idiot de vous poser des questions. On a envie juste d'allumer le micro et de vous laisser parler. Quoi,
non, parce que vous savez, on parle bien si on est bien questionné.
Justement, à propos de questions, j'en avais une parce qu'elle entretient un rapport étrange avec son fils Erwan.
De quoi... La limite est floue parce que c'est une femme qui a perdu le désir, mais qui est pleine de désir, qui a perdu l'amour, mais qui est pleine d'amour. Alors son fils, elle dit que la peur s'est déplacée, elle n'a plus peur pour Brahim, mais elle a peur pour Erwan. Elle ne le désire pas charnellement, mais elle a une sorte d'adoration, de lien très fort, parce que finalement, c'est sa seule réussite, c'est sa seule victoire dans cette Algérie qui la rejette, cette Algérie qui l'étouffe. Sa seule victoire avec son jardin, j'allais dire, aussi.
Et puis tout à coup, elle se sent suivie par un homme en voiture. Elle sait qu'il la suit et on va en parler dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Nina Bouraoui pour Satisfaction chez Lattès. Je vous ai passé les Pink Floyd, d'abord parce que j'adore, mais aussi surtout parce que cette chanson est dans la playlist du roman et c'est pas la seule. Il y a Yellow Submarine, il y a Song for Guy, Elton John, il y a même Rock Collection. On se garde les Rolling Stones d'ailleurs pour tout à l'heure avec Satisfaction évidemment, mais en tout cas, c'est un roman musical. Pourquoi ? Pour contraster avec la gravité, pour mettre de la joie ?
Mais je crois que la musique était très présente dans les années 70. Enfin, après, la musique est toujours très présente. Mais pour moi, l'Algérie me semble loin aujourd'hui parce que je n'y suis pas retournée. Et j'ai parfois l'impression d'avoir créé une sorte de légende. Et les seuls éléments de vérité qui me restent sont les photographies et les musiques. Et c'est vrai que nous écoutions beaucoup de musique en Algérie. Je pense aussi en France. Hein. Mais c'était très important. Il y avait l'Algérie et cet été brûlant, permanent. Et cet incendie un peu permanent, incendie, je veux dire, plutôt des corps. Et dans les pays du Sud, on est très, il y a une grande sensualité, il y a une sexualité un petit peu invasive, parfois intrusive. C'est un pays assez viril. Mais la chaleur, l'odeur des fleurs, le parfum des fleurs, les arbres, la mer, le désert, la musique s'inscrit très bien dans ce décor. Et moi, je crois que j'ai eu de nombreux chocs esthétiques. Et ces chocs esthétiques étaient accompagnés justement des Pink Floyd, des Beatles, des Rolling Stones. Après, plus tard, de la disco. Nous étions très à l'écoute. Et je crois que dans le cœur des Algériens de ces années-là, je sais que quand je recontacte des anciens amis du lycée Descartes, ce lycée français, il y a des musiques comme ça qui sont un peu à la fois des serments de cœur et à la fois l'histoire de notre légende.
Des repères.
Parce que ça a été très fugitif. Nous aussi, nous avons vécu les années 70, mais il n'y avait pas cette liberté sexuelle qu'il y avait dans le reste du monde. Et d'ailleurs, c'est la grande frustration de Madame Aclier. Elle dit, mais moi, quand est-ce que je vais la vivre, cette liberté, puisqu'elle est dans un pays quand même de carcan qui dirige et qui fait peur à ses femmes. Elle ne se sent pas libre à part dans son jardin. Et la musique de Wall, Pink Floyd, elle danse devant la glace, parce qu'il faut savoir que Madame Aclier est quand même... Alors, je ne veux pas dire névrosée, je n'aime pas ce mot. Elle souffre d'une maladie qui s'appelle la maladie de la mélancolie. Elle a des accès, elle tombe à l'intérieur d'elle-même. Elle a des accès de grande obscurité. Et parfois, elle a des accès d'excitation grâce à la musique.
Alors justement, je voulais rentrer dans la folie parce que je l'ai dit avant la pause. Donc, Madame Aclier, je rappelle, on suit ses carnets, en fait, ses pensées par fragments comme ça. Et ça déroule une histoire. Et à un moment, donc, elle est avec son fils Erwan dans la voiture. Et elle avait déjà remarqué un homme qui la suivait dans la rue. Puis là, en voiture, elle voit qu'il est derrière. Et puis, il les dépasse tout doucement. Il les regarde en les dépassant. Il passe devant avec une queue de poisson. Ensuite, il ralentit pour qu'elle la dépasse, lui. Et puis, etc. Puis, tout à coup, ils sont sur la plage et ils s'assoient à côté. Et on se dit, c'est quoi ces duels de Steven Spielberg?
Qu'est-ce qui se passe?
Et surtout, on se dit, est-ce qu'il existe vraiment ce type et cette menace?
Est-ce qu'il existe vraiment? On ne sait pas, peut-être. Un pays qui sort de la guerre est un pays qui a injecté dans chacun de ses habitants de la paranoïa. Je crois que chacun se sentait suivi. Alors, il y avait des raisons parfois de se sentir suivi, parce qu'à la fin des années 70, en effet, des sortes de milices ont commencé à se créer et on a commencé à espionner les habitants chez eux, et souvent les couples mixtes, parce qu'on se demandait pourquoi ces Algériens avaient épousé des Françaises. Est-ce que ces Françaises ne jouaient pas une sorte de double jeu de trahison? Est-ce qu'il n'y avait pas des espions? Et surtout, est-ce que ces gens-là commençaient à aller toujours perdurer dans leur rite, c'est-à-dire fêter Noël, alors que le pays devenait de plus en plus strict sur sa culture musulmane? Les femmes avec le hijab commencent à se montrer de plus en plus visibles, alors que l'Algérie, c'était plutôt ce voile blanc qui volait dans le vent. Et tout d'un coup, il y a l'influence de Khomeini qui n'est pas loin. Et puis, il y a un climat, en effet. Alors, ce n'est pas encore la terreur, mais chacun regarde l'autre. Et puis, il y a l'ennui. Les hommes sont toujours comme ça, par grappes dans la ville. Ils s'ennuient, peu de travail, peu de relations avec les femmes, donc suivre quelqu'un est tout d'un coup l'aventure d'une vie. Madame Aclier a certes la maladie de la mélancolie, mais elle est très lucide sur ce qu'il est en train de se produire dans ce pays. Et justement, elle va absorber ce basculement, elle va absorber cette menace politique et islamiste qui commence à poindre, qui n'est pas encore dite, mais en tous les cas que l'on ressent. Et en effet, elle est suivie par un homme alors qu'elle va à la plage.
Mais alors, elle a beaucoup de névrose. On ne sait pas encore tout à fait s'il y a de la folie là-dedans au début. Hein, ça arrive tout doucement. C'est comme encore une chute, en fait. C'est souvent ça dans vos romans aussi. Mais elle a peur de tout, en tout cas. Elle est jalouse de tout, y compris de Bruce, qui est une copine de son fils Erwan, de l'école, quoi. De quoi a-t-elle peur? C'est une enfant.
Oui, parce que Madame Aclier, elle est très ambiguë. C'est un personnage assez complexe, mais pour lequel j'ai quand même de la tendresse, même si parfois je me disais c'est terrible de faire exprimer ainsi un personnage. C'est étrange parce que ça vient bien sûr de quelque chose. J'ai croisé des Madame Aclier. Il y a des Madame Aclier dans ma vie, il y en a eu quand j'étais plus jeune. Quand Bruce arrive, c'est une menace parce que Bruce est une petite fille qui se présente en garçon, qui est entre deux genres. Son genre féminin, elle a plutôt muselé, corseté.
Elle est fan de Bruce Lee.
Elle est fan de Bruce Lee. Tous les murs de sa chambre sont tapissés par des posters de Bruce Lee. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer de muscler son corps et de faire taire sa féminité. Et elle va se prendre pas de passion, mais en tous les cas d'admiration pour ce petit Erwan, qui est une sorte d'agneau assez beau, assez angélique. Elle va essayer peut-être de lui prendre sa force virile qu'elle n'a pas. Et Madame Akli voit ça d'un très mauvais œil, parce que cette amitié va lui ravir l'attention de son fils. Erwan va être fasciné par cette fille-garçon ou ce garçon-fille. Et puis Madame Akli va peut-être aussi avoir peur de l'homosexualité inconsciente de son fils, puisque si son fils est si ami avec Bruce, qui il aime, la petite fille cachée ou le garçon affiché? Et ça, elle ne supporte pas, parce que Madame Akli est assez intolérante.
Et puis voilà Catherine, et là c'est encore pire, parce que c'est l'opposé de Madame Akli.
Oui, parce que Madame Akli, dans son jardin, sur les marches, quand elle écrit, c'est une sorte de théâtre. À l'intérieur d'un plus grand théâtre, qui est la ville d'Alger, et c'est aussi l'histoire d'une tragédie. Finalement, une femme qui n'aime plus, qui ne désire plus, une femme beaucoup plus belle, beaucoup plus libre qu'elle, va apparaître. C'est la mère de Bruce, son fils qu'elle a peur de perdre, son mari qu'elle ne désire plus, et cette femme qui va la hanter, la fasciner. Catherine est une femme libre, blonde, belle, sensuelle, totalement infidèle, qui aime, elle, l'Algérie, qui n'a pas peur des hommes en Algérie. Au contraire, elle a embrassé ce pays, mais comme elle embrasse le reste du monde. Mmh. Catherine est de passage, elle partira. Madame Akli dit qu'Alger, l'Algérie, est déjà le tombeau de sa jeunesse. Elle sait qu'elle est assignée à résidence, qu'elle ne partira pas. C'est une femme, finalement, pas très loin de l'héroïne d'otage. C'est une femme qui renonce, c'est une femme qui n'est pas libre, et c'est une femme qui est attachée à sa maison, attachée à la nourriture qu'elle concocte, qu'elle prépare au mets, au plat, au vin qu'elle boit, parce que Madame Akli boit beaucoup. Mais c'est aussi son côté, je trouve, sensuel et charnel, peut-être, qui nous l'a fait aimer, parce que à la fois elle est totalement hors de la vie, et à la fois je crois qu'elle a embrassé tous les travers et tous les plus mauvais sentiments que l'on peut ressentir. Alors elle va être fascinée par Catherine. Est-ce qu'elle va l'aimer? Est-ce qu'elle va la désirer? Je ne sais pas. En tous les cas, elle va désirer la liberté qu'elle n'a pas.
Catherine, qui est aussi l'occasion de scènes intenses à la Nina Bouraoui. On se retrouve dans un instant pour parler des coulisses de votre écriture. À tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Satisfaction, les Rolling Stones, et je reçois Nina Bouraoui pour son livre Satisfaction chez Lattès. C'est incroyable quand même ces mythes du rock, parce que même quand j'ai reçu le roman, même les épreuves du roman avec le titre Satisfaction, j'arrivais pas à le dire, je disais Satisfaction malgré moi.
Oui, mais je crois que à la fin du livre, on peut vraiment l'appeler et le dire, c'est Satisfaction que je viens de lire. Mais cette chanson pour moi, elle est très très importante. Parce qu'en 1978, un jour de l'an, j'avais donc 11 ans, il y avait une grande fête dans une maison, et je me souviens très bien quand passe ce morceau où tous ces adultes un peu ivres, qui dansent, qui hurlent, qui sont à la fois heureux et terriblement mélancoliques, parce que pour la plupart d'entre nous, nous savons que nous allons nous quitter, que nous allons partir, que quelque chose est en train de se tramer. Il est tôt, parce que les émeutes arrivent en 88, mais en tous les cas, commence à s'amorcer une sorte de défaite. Et je me souviens très bien d'avoir ressenti dans cette chanson à la fois la fougue sensuelle extraordinaire et une terrible mélancolie. En fait, j'ai grandi, je suis devenue adulte.
Ben oui, parce que c'est trompeur, satisfaction. On se dit, bon, bah, c'est qu'à un moment donné dans le roman, on va être satisfait. Mais la chanson, c'est « I can't get no oui. satisfaction ». Je ne peux pas obtenir de satisfaction.
Non, Madame Akli passe toujours à côté de sa satisfaction. Peut-être pas à la fin.
Pourquoi il y a sept carnets? Pourquoi sept?
Comme les sept péchés capitaux, aussi pour donner une sorte de couleur à ce livre qui est un roman, un vrai roman, une vraie fiction, mais qui est aussi un conte. C'est toujours l'Orient qui est en moi, c'est-à-dire que lorsque j'écris, il y a cette narration orientale avec tant de poésie. C'est un livre dont il n'est pas toujours aisé de... d'évoquer parce qu'il s'appuie beaucoup sur son écriture et sur le langage et sur la sensorialité, la sensualité, puisque la principale des scènes est le jardin de Madame Akli, et que plus les ronces vont grossir, plus le lierre va s'emmêler, plus le lilas sera odorant,
les oiseaux
et plus
de paradis.
Les mousses, et plus les oiseaux de paradis seront, baisseront la tête comme des enfants punis, plus les pensées de Madame Akli vont devenir empoisonnées.
C'est vrai que c'est compliqué d'en parler, de ce livre, et de le définir, parce que c'est à la fois un portrait, à la fois une peinture de paysage, à la fois un roman de vengeance haletant, toujours hypnotisant. C'est par fragments, en fait. C'est ça, l'idée, quoi. C'est des images comme ça que vous propulsez.
C'était, oui, c'était vraiment suivre les pensées pendant un an d'une femme qui est entre le réel et l'irréel, parce que lorsqu'on s'ennuie dans un pays, on a beaucoup d'imagination. Et Madame Akli se promène beaucoup aussi avec son appareil photo Polaroid. C'était très à la mode à l'époque. Et elle prend en photographie son fils, son mari, les personnages, Catherine, Bruce, mais aussi le ciel, aussi les fleurs.
Ce sont des Polaroids, en fait, oui.
Oui, ce sont des Polaroids. Oui, ce sont des Polaroids. Et finalement, elle dit qu'aussi, elle photographie ses pensées. Et l'écriture apparaît ainsi. Vous savez, quand sur la pellicule Polaroid, les visages, les couleurs apparaissent de façon étrange avant d'être totalement définis. Eh bien, la pensée de Madame Akli, elle est ainsi. Au début, on commence dans la torpeur d'un été avec de nombreux incendies. On a vu, et là, cet été, la Kabylie a beaucoup flambé. Déjà à l'époque, il y avait beaucoup d'incendies en été, donnant cette impression d'étouffement et à la fois de brasier presque sensuel et de frustration. Madame Akli, c'est aussi l'histoire d'une frustration. Et tout d'un coup, sa scène s'ouvre. Un peu de liberté arrive quand Catherine surgit.
Avec l'air tellement épais qu'il apparaît sur la photo. C'est une expérience de lecture, hein, vraiment, ce livre. Et puis, une expérience d'écriture, j'imagine. Et si vous acceptez, on aimerait bien ouvrir la porte de votre atelier, des coulisses de votre écriture.
J'accepte.
Merci beaucoup. Et la première question, c'est à quel moment vous avez décidé que vous alliez écrire? La première fois que vous avez écrit une phrase, travaillé avec objectif la fiction?
Pour ce livre ou en général?
Non, dans votre vie.
Ah, ça fait très longtemps. Première fois, j'avais 8 ans. J'étais j'habitais cet immeuble Shell que je connais bien, puisque j'y habitais jusqu'à l'âge de 14 ans, qui est dans le roman. Et je me souviens, j'étais seule parce que j'ai une sœur aînée, et je me souviens, on me conduisait depuis l'école, et puis on m'enfermait dans l'appartement, mes parents travaillaient, puis j'attendais ma sœur peut-être une heure, et on dominait la mer. Il y avait des portes-fenêtres que j'avais ouvertes, et je me souviens de l'ennui d'enfant, parce que lorsqu'on est enfant en Algérie, dans les années 70, il faut faire un petit peu attention. Et j'ai une rame de papier, j'ai un devoir à rendre, à 8 ans, je crois, on est au CM1, un truc comme ça. Et puis je commence à écrire et je n'écris pas du tout ce que le monde on me demande, mais j'écris 30 pages d'une histoire qui se déroule dans la forêt. Finalement, je fais toujours la même chose. Je suis très fidèle à mes premiers fantasmes. Et j'ai une sensation de force, de puissance et de liberté. Et tout d'un coup, je comprends que c'est ça qui me définit. Alors après, je continue 10 ans, 12 ans, puis j'envoie des premières nouvelles, j'ai 15 ans. Je me souviens, l'éditeur était grassé, il m'avait répondu très gentiment. C'était non, mais il y avait quand même la reconnaissance, peut-être un petit talent. Et puis, à l'âge de 19 ans, je commence vraiment à écrire mon premier roman que j'envoie par la poste à 23 ans. Et c'est La Voyeuse Interdite. Mais vraiment, peut-être la première phrase, j'ai 8 ans, sans mentir.
La Voyeuse Interdite, c'était le premier envoyé, premier accepté, quoi.
Oui.
Tout de suite.
Tout de suite, oui.
Est-ce que vous avez une discipline d'écriture?
Écrire tous les jours.
Voilà, est-ce que c'est tous les jours?
Oui, écrire tous les jours.
Et à toujours la même heure?
Alors ça dépend, il y a des livres de nuit. Satisfaction était un livre de jour, il valait mieux. Avec la puissance névrotique de Madame Akli, il valait mieux. J'ai écrit de 8h à 19h tous les jours. Mais l'écriture de ce livre, elle a été comme les Polaroïdes. En fait, je savais, j'avais le titre, j'avais la fin. Je savais exactement ce que je voulais écrire, monter. Parce que j'aime bien me dire que les livres aussi sont comme des montages et que souvent quand j'écris, c'est assez photographique, assez pictural et aussi il y a toujours quelque chose qui n'est pas loin du cinéma. C'est-à-dire que j'écris ce que je vois ou ce dont je me souviens ou ce que j'invente. Et pendant des mois, je construis mes livres, toujours. Je les construis, je fais des dessins.
Des plans et tout?
Des plans avec un crayon à papier, des crayons de couleur, de l'encre, sur des carnets Canson. C'est très serré. Et au fur et à mesure, alors parfois c'est un peu stressant pour l'éditeur parce qu'il attend, mais moi j'ai mon livre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'infusion. Je sais exactement ce que je veux faire. J'ai tous mes personnages, j'ai toutes mes scènes. J'ai le début, le milieu, la fin, mais ce n'est pas encore arrivé. Et puis, au bout de à peu près, je dirais, 10 mois, l'écriture apparaît. C'est une première page. Elle reste longtemps, plusieurs semaines. Et après, elle est lancée. Mais lorsque j'écris, tout est prêt. L'écriture est assez simple, en fait. Et pourtant, elle est précise. Il n'y a pas un mot plus qu'un autre. Il n'y a pas tout est... J'essaye vraiment de tout contrôler. Mais ça apparaît comme un Polaroid, justement. Oui. Et là, c'est une écriture pendant 2 mois qui est comme un athlète. Moi, je faisais beaucoup de tennis enfant. Cette volonté toujours de continuer, comme de faire des balles contre un mur jusqu'à épuisement. L'écriture, c'est ça. Plus on écrit, mieux on écrit.
Mais 8h, 19h, c'est dans ce créneau-là? Ou alors c'est de 8h à 19h et on ne bouge pas de la table?
Oui, c'est 8h, 19h, pas de table. Je ne crois pas du tout au bureau d'écrivain. C'est pas vrai.
J'allais vous demander la position d'écriture.
Allongée. Alors toujours habillée, coiffée, maquillée, très important. Parce qu'il faut, respecter ce qui arrive. Quand l'écriture arrive, il faut la respecter. C'est comme un rendez-vous amoureux. C'est sérieux.
Ah, vous allez au bureau à 8h, quoi.
Oui, mais le bureau, c'est mon lit.
Oui, voilà.
C'est mon lit ou mon canapé, ou parfois aussi le train. Aujourd'hui, avec les années qui passent, j'ai aussi décidé que l'on pouvait écrire avec du bruit et pas toujours s'enfermer dans le même lieu. Mais c'est vrai que la position des oreillers dans le dos, allongée avec... Alors après, c'est l'ordinateur, ça va très vite.
Alors voilà, c'est à l'ordinateur ou...
Ordinateur, le plan est au papier et l'ordinateur. Et puis souvent après, avant de m'endormir, je relis. C'est de la relecture aussi beaucoup, parce que je suis très sévère avec moi et je ne suis pas heureuse quand la page ne sonne pas, quand la phrase ne sonne pas.
Est-ce que vous faites relire à des proches, avant l'éditeur ou l'éditrice?
Écoutez, là, alors parfois, souvent quand je suis un peu coincée, j'ai une très grande amie qui me lit depuis très longtemps, je lui fais très confiance et c'est vrai que là, je ne savais pas trop pour les 3 premières pages. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas demandé parce qu'il faut beaucoup d'amitié pour confier, surtout pour la personne qui lit, accueillir et se dire est-ce que je peux lui dire que je n'aime pas? C'est compliqué.
Est-ce qu'on dit tout?
Oui,
ou
c'est compliqué.
Dit, c'est super pour encourager.
Et là, c'était super parce que, en fait, 3 pages, et puis j'ai vu des larmes dans les yeux, l'émotion. Je dis bon, c'est bon, c'est, je sais.
Ah, parce que vous êtes là quand elle lit?
Oui, toujours,
ah,
bien sûr.
Ah, oui, moi je veux regarder. Pas par mail,
non,
et
non,
puis,
moi
tu
je
me diras
regarde.
Ce que t'en penses,
non,
pour
non,
le
mais
temps,
moi hein. je regarde. Mais après, c'était très aussi très bien avec mon éditrice Véronique Hardy. C'est que elle l'a elle vécu comme une sorte de journal chaque semaine, chaque samedi. Je lui faisais livrer.
Ah, au fur et à mesure.
Oui, il y avait la livraison des pages.
Comme un feuilleton.
Oui, et ça, c'est une façon d'écrire plutôt nouvelle pour moi, mais qui est assez galvanisante parce qu'on est attendu.
Et ça donne satisfaction chez Lattès. Merci Nina Bouraoui. Vous restez avec nous. On part visiter une bibliothèque, celle de Gilles Martin Chauffier. A tout de suite.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Nina Bouraoui pour son nouveau roman Satisfaction chez Lattès. Il est l'heure de la visite de bibliothèque, celle de Gilles Martin Chauffier. Aujourd'hui, l'écrivain et rédacteur en chef de Paris Match publie Le Dernier Tribun chez Grasset, sélectionné pour le Renaudot d'ailleurs. C'est un roman historique et quelle histoire! Nous sommes à Rome, où se croisent César, Pompée et Cicéron, et on sait combien le roman permet justement de visiter l'histoire. Il en sera sans doute question d'ailleurs dans la bibliothèque de Gilles Martin Chauffier, où nous nous rendons immédiatement. Bonjour Gilles Martin Chauffier.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est à Paris, on est dans votre appartement. Et alors, on est dans une première pièce, dans l'entrée, avec des livres un peu partout. Et bon, je m'y attendais un peu, mais il y a beaucoup de livres d'histoire.
Oui, en fait, je fais des romans, et des romans depuis toujours, qui sont un peu des romans qui racontent la société française. Mais un peu comme les romans, mes romans préférés, c'était un peu les romans du 19e siècle. Qui sont quand même des reportages sur l'époque et qu'on peut aujourd'hui lire comme des livres d'histoire. Je veux dire, quand vous lisez Le Rouge et le Noir, c'est quand même l'histoire d'une conspiration ultra sous le règne de Charles X. Quand vous lisez Stendhal. Oui, ou Stendhal, c'est aussi une conspiration et c'est aussi une élection truquée dans Lucien Leven. Donc, j'aime bien. Et d'ailleurs, parmi mes romans préférés, il y a des romans comme Tom Wolfe, par exemple, j'adore ces livres, qui sont des analyses d'époque, mais qui sont en même temps des portraits historiques de l'Amérique contemporaine. Et donc, Ça, c'est ma version moderne de l'histoire, mais en fait, quand j'étais enfant, quand on me demandait quand j'avais 13 ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je dis toujours prof d'histoire. Et donc, j'ai énormément lu de livres d'histoire, et dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de livres qui sont des livres d'histoire, en réalité.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas devenu prof d'histoire?
Je suis devenu journaliste, donc d'une certaine manière, journaliste, c'est un peu prof d'histoire contemporaine. Et d'ailleurs, je suis un journaliste qui, dans mes chroniques, dans mes papiers, je fais quand même beaucoup d'allusions à l'histoire. C'est un élément important de mes papiers.
Oui, parce que vous parliez des romans qui font visiter l'histoire d'une certaine manière, qui nous emmènent dans l'histoire et dans l'ambiance et dans les odeurs et dans l'atmosphère d'une histoire par la fiction. Mais là, ce qu'on voit, c'est des livres d'histoire très académiques, à commencer par l'encyclopédie Moore, M-O-U-2-R-E, qui est en fait le livre de chevet de tous les étudiants en histoire.
C'est la Bible absolument de tous les amoureux d'histoire. Et en plus, c'est la Bible qui empêche de faire des erreurs. Parce que quand on dit on veut citer un personnage, etc., si on veut vraiment le recadrer et pas se tromper sur les dates ou sur les autres protagonistes de son aventure, on se jette dans le Moore qui est passionnant. Moi, j'en ai une version en 8 exemplaires.
Enfin, un peu ancienne.
Oui, très ancienne, mais qui est grosse, parce que maintenant, ils font des versions plus petites.
Oui, des petits Moore.
Et donc, c'est très, très agréable. Mais bon, les romans, quand on me demande toujours quels sont vos romans préférés, souvent, je dirais que le premier roman que j'ai adoré, c'était Robinson Crusoe, parce que je suis breton, je suis dans une île, etc. Mais dans mes romans préférés, il y a eu Salambo, il y a eu Les Mémoires d'Adrien, il y a eu les romans de The Oldenburg sur les Cathares. Un bon roman qui raconte en même temps l'histoire, c'est quelque chose qui me passionne.
Et oui, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais vous travaillez à Paris, donc vous avez un appartement à Paris. Mais en fait, la plupart de vos livres, m'avez-vous confié avant d'allumer les micros, sont sur l'île aux Moines, parce que vous faites partie vous êtes de l'île aux Moines,
ouais.
En fait. Quoi.
On est de Vannes, et on a acheté une maison à l'île aux Moines en 1890, donc ça fait 6 générations qu'on s'y succède. Et ce n'est pas la plupart de mes livres, c'est la plupart des livres précieux. Parce que mon grand-père était éditeur, par exemple, il a été l'éditeur d'Ursenard. Donc on a tous les livres d'Ursenard dédicacés de façon très amicale. Il était un très jeune ami de Proust. Proust était une star, pas lui. Mais on a des livres la recherche dédicacés par Proust. Enfin,
et donc, comme par hasard, ils sont là-bas et pas quand je viens à Paris visiter votre bibliothèque.
Oui, parce que là-bas, c'est une très jolie bibliothèque. Là-bas, je me ruine à les relier. Puis c'est une bibliothèque ancienne. Il y avait les livres de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Donc...
Vous êtes un peu fétichiste avec les livres dédicacés et tout ça? Vous collectionnez, vous les soignez, tout ça ou...
Non, pas du tout. Mon père était complètement fétichiste. Il recouvrait de papier plastique tous les livres. Moi, non, pas du tout. Là, tout cela, c'est ceux que je vais donner, qui sont près de la fenêtre. Je vais les donner à l'école de mes enfants.
On ne dit pas les noms, alors.
Non, mais on pourrait les dire, mais ce n'est pas grave. Il y a un été avec Homer de Sylvain Tesson. Je donne des bons livres. Je donne pas les mauvais. J'en reçois tellement que les mauvais, je les laisse sur les tables, à match, etc. Ceux que je donne pour l'école de mes enfants, c'est les bons.
Alors, je disais qu'il y a des livres d'histoire très académiques, il y a aussi des livres d'art, mais ça, c'est plus surprenant. Il y a aussi des livres d'histoire, peut-être pas pour les enfants, mais en tout cas un peu jeunesse. Là, il y a l'histoire de France en bande dessinée, par exemple. Il y a des vieux volumes d'histoire illustrée, plutôt pour découvrir l'histoire quand on est ado, des choses comme ça.
Il y a des livres illustrés formidables, parce que je les ai adorés et je ferai lire à mes petits-enfants. L'histoire de France en bande dessinée, elle est complètement nulle. C'est un truc que j'avais acheté, je les ai pris toutes les semaines, mais bon, c'était très décevant, alors que ça avait aussi été fait par Le Monde, et ça, c'était absolument fantastique, cette série. Il y a des bonnes séries, mais il y a des mauvaises.
Mais ce qui est chouette avec l'histoire de France en bande dessinée, c'est que vous avez toute la collecte, et donc la tranche de tous les livres, oui, côte à côte, forme le titre de la collection, oui, Histoire de France en bande dessinée. Ça, c'est chouette.
La chose qui est très bien, c'est le fond, oui. Une fois qu'on les ouvre, c'est beaucoup moins bien, mais présentation, c'est très joli.
Mais je m'attendais, moi, à trouver des sommes sur Rome et sur l'Empire romain et sur l'Antiquité, en fait.
En fait, il n'y avait pas de somme, parce que j'ai toujours adoré, dans les périodes de l'histoire, il y a des moments qu'on aime plus que d'autres. La République romaine, c'est un moment qui m'a toujours passionné. Et donc, j'ai toujours lu tous les romans qui paraissaient depuis une quarantaine d'années sur cette époque. Et donc, il y a bien sûr les Bibles, les études de Mommsen, éventuellement même de Montesquieu, mais des romans, j'en ai plein. Alors, il y en a dans mon bureau. Là, on est dans la salle à manger. Là.
On va aller voir le bureau quand même.
Dans mon bureau, il y en a une vingtaine. Mais à l'île aux Moines, il y en a beaucoup plus. Mais je ne m'en suis pas servi pour l'écriture du dernier tribun. Ça fait tellement longtemps que je suis sur le sujet que je voulais pas faire de l'érudition savante.
Alors on s'est engagé dans un long couloir assez sombre, pas éclairé.
C'est si, hein, j'ai allumé la lumière.
Dans une petite pièce très lumineuse avec effectivement encore beaucoup de bibliothèques. Là on est dans votre bureau, c'est ça ?
Là on est dans mon bureau et là on est dans la bibliothèque où il y a tous mes copains écrivains et il y a tous les livres, mes auteurs préférés. Là vous êtes devant les auteurs anglo-saxons, donc il y a Christopher Isherwood, il y a Tom Wolfe, il y a Oscar Wilde. Et puis, il y a effectivement
les livres d'histoire,
tous les livres qui sont reliés à Rome.
Sur l'Antiquité. Qu'est-ce qui vous passionne autant dans l'Antiquité romaine ?
Dans l'Antiquité romaine, je pense que c'est d'abord, quand un écrivain s'attaque à un sujet, il y a ses fantasmes. Donc, je ne sais pas, j'ai adoré Bénure quand j'étais gamin. Ah. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un de mes romans préférés quand j'étais gamin, c'était Salammbô. L'univers de l'Antiquité, je trouve sexy, beau à voir, etc. Et donc, ça a sûrement joué. Et puis, en plus, ensuite, il y a le fait que... Bon, j'ai adoré le latin quand j'étais à l'école. Il y a des gamins qui aiment. Il y en a qui détestent. Moi, je détestais les maths, mais le latin, j'adorais. Et puis, la situation politique romaine est à l'intérêt, surtout au moment de la chute de la République romaine, quand il y a César, Pompée, Cicéron qui se battent, de ressembler beaucoup à la situation de la politique actuelle en France. Enfin, contemporaine en Europe, disons. Pas actuelle aujourd'hui en France, mais... Les données.
On assassine moins de dirigeants quand même.
On assassine moins de dirigeants, mais.
Politiquement, éventuellement.
Les hypocrisies, c'est pas tant les mœurs qui sont exactement les mêmes que les hypocrisies et les mensonges. Cicéron, qui est le méchant de mon livre, quand j'ai envisagé de l'écrire, moi je l'ai écrit parce que je voulais que mon père allait prendre sa retraite. Et je lui ai dit, tu peux pas rester à rien faire, il est au moine pendant des années. Fais une biographie de Cicéron, ça t'occupera. Parce que l'époque, c'était en 87, et pour moi, Cicéron, c'était vraiment le modèle de Mitterrand. C'est-à-dire un homme de droite, profondément ancré dans son cœur à droite, mais qui ne va tenir qu'un discours de gauche toute sa vie, qui va se servir de la République, de la démocratie, des grands mots, pour défendre un point de vue qui n'a rien à voir, et qui, en même temps, défend l'oligarchie. Et donc, cette situation reste la même. Et à l'époque, j'avais dans l'idée de les grands ennemis de Cicéron, ça a été Claudius, qui était le tribun du peuple. Et le tribun du peuple, à l'époque, c'était...
Qui est le héros du livre.
Qui aujourd'hui a un Marine Le Pen ou un Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un qui dit, c'est bien joli la liberté, mais la liberté, pourquoi faire si on n'a pas d'argent, si on n'a pas d'emploi ? Et donc, les débats restent exactement les mêmes.
Alors là, je note une autre obsession en regardant de l'autre côté du bureau, c'est Barbet d'Aurevilly.
Ah oui,
vous avez toute la collecte. Rappelez-nous d'abord qui il est.
Alors Barbet d'Aurevilly, c'était un personnage extraordinaire qui est un. D'abord, il est normand, mais il avait l'esprit chouan. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Ouest. Toute sa vie, il a annoncé qu'il écrirait L'Ouest. Que moi, j'ai publié un livre, un roman qui s'appelait L'Ouest chez Bernard de Fallois il y a 25 ans.
Je rappelle que vous êtes breton, donc pas objectif sur les Normands. Mais
non, mais alors celui-là, c'est mon bon normand. Je l'adore. Et donc, j'ai une passion pour lui parce que c'est un homme complètement libre qui était horriblement réactionnaire, mais horriblement intelligent et horriblement honnête. C'est-à-dire, quand un livre écrit par quelqu'un qui n'était pas de son bord était brillant, il n'avait plus aucune réserve pour en dire c'est formidable. Et si quelqu'un de son bord écrivait quelque chose de nul, il le massacrait. Et donc, c'est un homme très honnête. C'est un homme vous savez, c'est l'incarnation du dandy à la française. Il y a Brumel pour les Anglais, et pour les Français, il y a le Marquis d'Orsay et il y a Barbet d'Aurevilly. Donc il avait un côté à la fois un érudit, un homme qui écrivait admirablement, parce qu'il a des livres, par exemple, Une vieille maîtresse et une histoire d'amour, à la fois perverse, méchante, et puis horriblement, affreusement sexy.
Donc, vous racontez
l'histoire de la vieille maîtresse, c'est une histoire merveilleuse. C'est un garçon qui, je crois, qui s'appelle Renaud de Marigny. Ça, c'est le héros. Très bel homme, très mondain à Paris, et qui a une maîtresse qu'il adore, qui s'appelle la Vellini, qui est une femme plus âgée. Les gens ne les trouvent pas très belles, mais en même temps, on sent qu'elle l'a ensorcelée complètement. Et puis, il tombe amoureux d'une jeune fille d'une très bonne famille, et une aristocrate. Donc, il l'épouse. Et ce qui est amusant, c'est que c'est raconté aussi par la grand-mère de la jeune fille, qui, tout de suite, elle comprend que l'autre finira par revenir. Et la Vellini va peu à peu récupérer l'amour de Renaud de Marigny, et tout va se casser la figure. Et c'est un portrait de la société française, des hypocrisies, des mensonges. Et en même temps, c'est une histoire d'amour extraordinaire, parce que la jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Blanche, non, Hermangarde, Oui, Ermengarde, elle s'appelle un prénom accroché dehors. Elle en est folle de son mari. Et lui, il l'aime beaucoup. Mais lui, il est tenu par la Vellini. C'est très sexy comme livre. Et c'est en même temps, c'est un vrai portrait de la haute société française et de ses tabous et de ses préjugés.
Ouh, alors ça, ça m'intéresse. Un carton rempli de vieux livres, de vieilles éditions. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont en partance ? Ils arrivent ? Qu'est-ce que c'est ?
Non, ils arrivent. C'est que ma mère est morte. Et donc, on a dû vider la grand-mère, la bibliothèque de ma mère, qui était aussi celle de mes grands-parents. Et mon grand-père a été éditeur, a été journaliste. Et donc, j'ai pris dans la bibliothèque les livres qui moi, me tentaient. Par exemple, Pierre Herbart, qui était le petit ami de Gide, qui a fait l'âge d'or, qui était un personnage un peu légendaire, sulfureux des années 45-50.
Vieille édition Gallimard.
Ouais, bon, tout est mélangé dans les temps. Là, c'est Fritz Zorn, Mars, vous savez, c'est le type qui est le Suisse de très bonne famille qui a eu un cancer et qui dit le jour où j'ai un cancer, ça donne un sens à ma vie. Et j'ai adoré ce livre.
J'irai cracher sur vos tombes de Vernon Sullivan, alias bien sûr Boris Vian, mais là, c'est marqué traduit de l'américain par Boris Vian, c'est-à-dire que c'est l'édition. Au moment où les gens ne savaient pas que c'était Boris Vian qui en fait avait écrit ce livre très sulfureux et qui a fait polémique à l'époque. Ça, c'est une très vieille édition.
Ben, c'est une première édition. C'était l'avantage. D'abord, Boris Vian, ce livre en particulier, c'est un polar, donc c'est très amusant. Puis il est très,
avec un viol,
très bon livre.
C'est très, très violent.
C'est très violent. Et puis, bon, donc j'ai gardé parce qu'il y avait 3000 livres, donc il fallait faire des choix.
C'est pas évident, ça, l'héritage d'une bibliothèque.
Le seul héritage,
c'est un peu de l'âme, quand même.
Le seul héritage certain, c'est que mon grand-père était un grand critique, un grand journaliste. Mon père était ensuite rédacteur en chef du Figaro. Donc, c'était toute ma vie noyée de livres. Ah. J'avais juré que chez moi, les livres n'enverraient pas tout.
Je vois là la collection aussi de l'histoire de France de Lavis. Et juste à côté, celle de Jules Michelet. On a commencé par l'histoire. On va finir par l'histoire aussi, mais avec Michelet, c'est intéressant parce qu'il fait le lien entre l'histoire et le roman, d'une certaine manière.
Il fait surtout le lien, pour moi, entre l'histoire de France et l'histoire de Bretagne. C'est un auteur sur lequel j'envisage d'écrire un livre, parce que je suis breton et je suis très européen, pro-européen, et je pense que l'Europe amènera à dire à l'Écosse, oui, vous êtes indépendant, oui, Catalogne.
C'est un Européen des régions.
Oui, je pense que l'Europe va redécouper, va finir avec les nations et va lancer les régions. Et Michelet, c'est l'incarnation du mensonge national. J'adore Michelet, hein, je ne remets pas en cause son écriture et son style, mais il a inventé une France qui n'a jamais existé. La Bretagne pendant la guerre de 100 ans, elle est une fois française, une fois bretonne, une fois anglaise. Les Bordelais sont anglais du premier au dernier jour, même les Rouennais. Strasbourg et Nice se fichent éperdument, ça ne veut rien dire. Et il oublie des passages entiers de l'histoire de France qui ne l'intéressent pas. C'est-à-dire à Perpignan, il y avait un roi qui était à Perpignan et à Majorque et qui recevait, qui avait deux chefs de sa religion. Il y avait le grand imam et l'évêque. Tout ça est oublié, effacé. Michelet a réinventé une France qui n'a jamais existé.
Puis il est intéressant parce que bon, c'est une histoire parfois un peu approximative, mais c'est une histoire quand même avec du style, avec de la flamboyance.
C'est surtout avec beaucoup,
c'est
beaucoup de
style. Ce n'est pas interdit de mettre du style dans l'essai, au contraire.
C'est même c'est sa grande force et ce qui fait qu'il reste. C'est qu'en fait, historiquement, maintenant, j'imagine que les spécialistes vous diraient qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Mais quand il fait le portrait de Marat en décrivant une grenouille, quand il fait. Il y a un style chez Michelet qui est littéralement inoubliable et fascinant.
Ah, d'ailleurs, je n'ai pas vu, il y a un petit dossier Michelet sur le bureau. C'est les documentations pour l'éventuel livre sur le sujet ?
Ben c'est effectivement sur tout ce que je peux faire sur l'Europe. C'est des notes que je prends sur les livres que je pourrais écrire après.
Ben on vous laisse l'écrire alors. Merci beaucoup, Gilles-Martin Chauffier.
Merci, à bientôt.
Et je rappelle le titre du nouveau roman de Gilles-Martin Chauffier, Le Dernier Tribun, c'est chez Grasset. Et chez vous, Nina Bouraoui, ils sont rangés comment, les livres ? Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Ils sont rangés n'importe comment, en désordre.
Ah, d'accord.
Oui, parce que je pense que les livres ne doivent pas nous intimider, mais ce sont... je ne suis pas l'invitée de mes livres, ils ne sont pas mes invités non plus, ce ne sont pas des objets, ils ressemblent à la vie, ils sont vivants, c'est-à-dire que je prends mes livres n'importe comment, je les ouvre, parfois je les relis beaucoup, et puis parfois j'aime bien ouvrir un livre de philosophie et me dire... Peut-être là, il va y avoir une phrase qui va changer ma journée. C'est très naïf. Hein. Mais je n'aime pas l'ordre des livres. Il me fait peur.
Mais vous
parce que la vie n'est pas ordonnée. Oui, bien sûr, j'ai une grande bibliothèque, il y a 3 rangées. Et puis après, là, je ne sais pas combien ils sont assez nombreux. Et puis j'en ai 700, 800 qui sont sous les toits dans un placard. Et ça fait, il faudrait que j'aille les voir, je pense qu'ils s'ennuient un peu.
Mais il n'y a pas une case français, une case américain, britannique?
Non, pas
russe,
du tout, parce que moi, je ne lis pas ainsi. Je lis vraiment... par amour ou par surprise ou les livres doivent ressembler, une bibliothèque doit ressembler à la vie, c'est-à-dire multipeuplée avec une multinationalité, des hommes et des femmes, et puis dans une espèce de désordre assez joyeux, mais désordre quand même. Je sais retrouver mes livres fétiches.
Je passe mon temps à le dire, la bibliothèque, elle ressemble à son propriétaire.
C'est vrai.
On va la remplir justement par chez les libraires dans un instant.
La voix est livre. Nicolas Carreau.
La Voix et Livre, suite et fin, nous partons à la librairie L'Instant, Paris 15e, chez Sandrine Babu. Bonjour Sandrine.
Bonjour Nicolas.
Ça se passe bien la rentrée ?
Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Bonne rentrée littéraire, rentrée scolaire en même temps, on bosse bien.
Et parmi les 3 romans de la rentrée que vous tendez à vos clients dès qu'ils passent le pas de la porte, eh ben, y a ceux qui sont devant moi, là, dont vous allez nous parler. Et on commence peut-être par Guillaume Cyr. C'est son nouveau roman, ça s'appelle Les Contreforts, c'est chez Calman Lévy.
Exactement. Alors, Guillaume Cyr, c'est un auteur que je suis depuis quelques livres déjà et qui a une belle capacité de se renouveler, d'être toujours aussi passionnant. Donc, dans Les Contreforts, il nous emmène dans les Corbières, avec une famille d'aristocrates un peu fauchés qui tiennent à bout de bras un château qui part en ruine. Et donc, on a cette famille qui lutte, qui résiste contre vent et marée, qui est très solidaire. Et ce qui est bien, c'est que c'est un vrai roman d'aventure. Il y a des chasses au trésor, il y a des événements un peu bizarres qui se passent dans la nature. La nature qui n'est pas toujours accueillante. Et on est vraiment entraîné dans cette aventure. On est bien dans ce livre. Et par contre, c'est quand même une tragédie. Enfin, c'est un conte un peu merveilleux, mais une tragédie. Donc, on suit les rebondissements de l'histoire.
Mais c'est toujours fouillé, c'est toujours dense chez Guillaume Cyr.
Il a une très belle écriture, très belle écriture. D'ailleurs, ce soir, on le reçoit à la librairie, donc j'aurai l'occasion de parler avec lui de la façon dont il écrit ses livres.
Les Contreforts. Guillaume Cyr, qui avait d'ailleurs été prix Orange, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans.
Ouais, c'est l'an dernier, pour avant la longue flamme rouge qui se passait au Cambodge.
Et là, c'est Les Contreforts chez Calman Lévy, avec la couverture très sobre de chez Calman Lévy, mais colorée en jaune pour celui-là. C'est très, très joli. Alors, il y en a une autre de couverture à côté, très intrigante. C'est chez Dalva. Ça s'appelle L'Octopus et moi. On voit une jeune fille comme ça en bikini. Elle a l'air de faire la planche sur la mer et on voit le reflet de la lune. On est en pleine nuit et c'est signé Erin Hortel, si je prononce bien son nom.
C'est tout à fait ça, Erin Hortel. Donc Dalva, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'est lancée, je crois, cette année et qui publie des voix féminines, donc qui a fait le choix de ne publier que des femmes et qui, pour l'instant, fait vraiment un sans faute. Et donc moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai lu en plus juste après avoir vu ce documentaire incroyable qui s'appelle « La sagesse des pieuvres » qui se passe en Afrique du Sud avec ce plongeur-là qui se lie d'amitié avec un poulpe. Donc là, on est donc en Tasmanie. Donc avec cette jeune femme qui vient de subir une opération suite à un cancer du sein, donc qui est un petit peu paumée, elle va sauver la vie d'une pieuvre qui traverse la route et ça va remettre beaucoup de choses en question chez elle. Et donc on va la suivre dans un peu cette nouvelle vie. Donc elle va remettre en question son histoire d'amour, ses amitiés. On va la voir évoluer dans les paysages de Tasmanie qui ont l'air magnifiques, hein, vraiment elle nous plonge dans ces paysages. Et donc, c'est un roman qui est inspirant, qui est subtil, qui parle d'écologie aussi, qui parle d'amitié, qui est vraiment merveilleux. Et j'ai des extrêmement bons retours sur ce livre à chaque fois que je le conseille à des clients et des clientes.
Mais le point commun, c'est juste le poulpe. Elle ne suit pas le poulpe comme dans le documentaire pendant tout le roman.
Pas du tout. Non, c'est différent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite convergence là sur le sujet du poulpe qui était assez, assez étonnante. Et enfin, le point commun, c'est que les deux sont très, très émouvants.
Alors, encore rien à voir, décidément, c'est d'hiver aujourd'hui. Chez Actes Sud, ça s'appelle « Je ne reverrai plus le monde » d'Ahmet Altan et sous-titré « Texte de prison » traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabane.
Exactement. Alors, ce livre, moi, on m'en parle depuis sa sortie il y a plus de 2 ans et je ne l'avais encore jamais lu. Je l'ai lu dans le train ce week-end et il m'a vraiment ému et touché profondément. C'est donc Ahmet Altan, il est écrivain et journaliste en Turquie. En 2016, il a eu une arrestation très arbitraire. Il s'est retrouvé en prison, donc c'est vraiment des textes qu'il a écrits en prison. Et en fait, il a une façon de nous raconter son quotidien, donc d'un homme qui est privé de liberté, mais d'un homme qui est également un écrivain. Donc en fait, il parle aussi beaucoup d'écriture et en gros, il arrive à passer les murs de sa prison grâce aux mots, grâce à l'imagination, grâce à la littérature. Donc c'est extrêmement beau et c'est un livre vraiment, je recommande à tout le monde. Bon, bien sûr, le sujet est dur, mais le traitement qu'il en fait est absolument magnifique.
Dans le format en longueur d'Actes Sud, comme ça, très joli. Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde, texte de prison. Et puis on récapitule les deux autres. Erin Hortel, L'Octopus et moi, chez Dalva. Et Les Contreforts de Guillaume Cyr, chez Kalman Levy. Merci beaucoup, Sandrine.
Merci, Nicolas. À bientôt.
Retour à Europe 1, toujours avec Nina Bouraoui, qui publie Satisfaction chez La Thèse. Nina Bouraoui, c'est quoi votre rapport avec les libraires?
Ah, j'ai plutôt un
vous
très
avez
bon.
Une préférée de librairie
Il y a une librairie que j'adore qui est rue de Bretagne, qui s'appelle Comme un roman. Mais souvent, alors les libraires, j'ai un très bon rapport avec eux quand je vais les voir et que je vais faire des signatures. Mais en revanche, je suis assez timide et souvent je vais, alors ça peut les faire hurler, mais je vais parfois acheter mes livres au BHV parce qu'il y a une sorte de. Je suis un peu
invisible. Il y a une chouette librairie, le BHV, à Paris, à Hôtel de Ville.
Mais oui, très bien d'ailleurs, très bien, avec beaucoup de choix. Et je trouve que les livres sont. Enfin, ils ont, oui, les livres sont très bien mis en avant, mais au moins on ne me voit pas. Je suis toujours gênée si un libraire me demande vous écrivez en ce moment, vous allez publier bientôt, ce qui est plutôt très gentil. Hein. Mais j'aime être une citoyenne invisible dans une librairie et plus un auteur.
Ah, je croyais que vous aviez peur du. Je peux vous aider ? Non, je regarde, c'est tout.
Non, pas du tout. Non, parce qu'en plus, quand je vais dans une librairie, je sais ce que je vais acheter.
Et en ce moment, on peut acheter Satisfaction, d'ailleurs. Chez La Thèse, merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son carnet d'adresse et à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée derrière la console.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.